Il faut garder le moral tout le temps.
Oui, c'est ce que vous dites dans le livre.
Ah ouais, ouais, dans le bouquin, je passe mon temps à dire aux gens, gardez le moral. Alors okay. Donc, moi, il faut que j'ai le moral aussi.
Ah ok, alors on va essayer de vous donner le moral. On peut y aller ?
Allez, comme vous voulez.
Bonjour à tous et bonjour à toutes. Heureux de vous retrouver sur Radio Judaïque à Strasbourg. Il est journaliste, il a créé le 19-20, le Tout le Sport. Il a présenté le 20h de France 2. C'est un grand journaliste du PAF qu'on a aujourd'hui. Bonjour Henri Sagnier.
Bonjour, ravi d'être avec vous.
Comment vous allez ?
Ben ça va, ça va. Par rapport à 3 ou 4 ans en arrière, je vais beaucoup mieux. Je remarche, je reconduis ma voiture, je sais signer. Bon, je peux pas écrire, c'est difficile.
Ouais.
Mais bon, ben ça va mieux et le moral est au beau fixe. Donc tout va bien. Et en plus, il fait soleil aujourd'hui, grand soleil. Donc
nous, chez nous aussi, tout va bien.
Bon, c'est bien.
Vous avez écrit un livre qui s'appelle « Le jour où j'ai appris à marcher » aux éditions du Rocher. Moi, je voulais vous demander, il y a juste avant votre accident, vous avez eu en interview déjà, vous avez sorti un livre, et à l'époque, vous me disiez, tout va très très bien, je fais du sport, je me repose, je fais ce que je veux. C'est arrivé assez vite finalement, la maladie que vous avez eue.
Ah ben c'est arrivé d'une manière inattendue, c'est-à-dire que j'ai fait une chute de vélo en VTT. Bon, c'était pas terrible, j'avais oublié de mettre mon casque, j'ai grillé un stop, ouais, j'avais tout faux. Hein. Bon, et puis, bon, le surlendemain, j'ai sorti de l'hôpital,
Ce qui est très drôle dans votre livre, c'est que vous dites que la route que vous avez prise en faisant donc cet accident de vélo, vous la connaissiez par cœur. Vous la connaissiez les yeux fermés.
Ouais, bien sûr.
Ouais. Et pourtant...
Eh ben, je roulais derrière ma femme a un vélo électrique, je lui ai offert ça, et moi je roulais avec un VTT derrière, mais je m'ennuyais un peu, puis on était sur le bord de la rivière, la Somme, ici, qui passe ici dans le village, et à un moment je lui ai dit, écoute, passe sous le pont, moi je vais passer au-dessus, parce que je vais m'amuser, c'est comme si je gravissais un col un peu, parce que sinon c'est tout plat, et puis j'ai oublié que j'avais plus priorité là-haut, et puis bing, je me suis emplafonné une bagnole, quoi.
On rappelle que vous êtes le maire de la ville où vous habitez. Après, vous avez, vous sentez des choses qui sont dans votre corps et vous découvrez votre maladie. Je ne vais pas le dire parce que je vais le dire très mal, mais c'est quoi votre maladie ?
Ah ben, la maladie telle qu'on l'a diagnostiquée maintenant, c'est une polyradiculonévrite chronique. Ah oui, parce qu'au début, moi, j'ai fait tout un cheminement dans les hôpitaux. Hein. On m'a pas trouvé ça tout de suite. Au début, on m'a dit que c'était une maladie de Guillain-Barré. Puis
Charcot aussi, je crois.
Et puis après, c'était pas ça, visiblement. Et on m'a envoyé à Paris. Et à Paris, on m'a dit c'est une polyradiculonévrite. Et là, on m'a donné un soin pour ça. Le polyradiculonévrite, c'est une maladie auto-immune. Ça veut dire que votre plasma est plus bon. Dans le plasma, vous avez des anticorps, et les anticorps, au lieu de m'aider, ben, ils se retournent contre moi.
Ouais.
Donc là, une fois toutes les 8 semaines maintenant, et avant c'était toutes les semaines, je vais à Paris et je me fais changer le plasma. On appelle ça une plasma phérèse.
Alors, Henri Sagnier, ce qui m'a étonné dans votre livre également, c'est qu'on a l'impression que vous avez découvert le monde de l'hôpital, un monde que vous décrivez un peu de façon un peu étonnante. Je me dis, quand on présente le 20h de France 2 et tout ça, et qu'on est très qu'on se met à l'actualité, on connaît un peu l'hôpital déjà à l'extérieur. Là, vous découvrez un monde que vous n'imaginez pas.
Ah non, moi je connaissais de l'extérieur, hein. J'en parlais de temps en temps dans les informations, quand il y avait un problème, mais là, moi l'hôpital je l'ai connu, j'avais 7 ans, pour me faire enlever l'appendicite, alors vous voyez, et depuis j'étais pas allé à l'hosto, je connais pas l'hôpital, et là j'ai découvert l'hôpital dans des conditions particulières, c'était pendant le Covid.
En plus.
Alors vous voyez, moi j'étais malade d'une maladie des nerfs, une neuropathie, et tout le monde avait le Covid dans l'hôpital, donc j'étais pas la première des priorités. Ils sont bien occupés de moi, ils étaient bienveillants à mon égard, mais il y avait tellement de gens malades que moi, je n'étais pas la première préoccupation.
Et votre séjour à l'hôpital, vous l'avez arrangé de façon à ce que vous pouviez un peu discuter avec des gens là-bas ?
On discutait pas du tout. tout. Ah. Le premier séjour à l'hôpital à Amiens, on n'avait pas le droit de se parler, il y avait le Covid. Tout le monde était suspecté d'avoir le Covid. Moi, j'étais dans une chambre à part avec un monsieur qui n'avait pas le Covid. Mais partout ailleurs, il y avait le Covid. Donc, on ne discutait pas tellement, sauf avec les infirmières et les infirmiers, qui étaient très gentils d'ailleurs, mais qui n'avaient pas que ça à faire, mais qui faisaient leur boulot et qui le faisaient bien. Hein.
Alors, dans votre livre, vous le racontez aussi, c'est les allers-retours entre Paris et Amiens, votre séjour à Berck. Et finalement, en lisant le livre, j'ai l'impression que la rééducation...
C'est un hôpital où il n'y a que des accidentés de la vie. Quoi. Et moi, à côté, je n'étais pas un très, très grand accidenté. J'étais en fauteuil roulant, mais pas accidenté. Mais ils sont bien occupés de moi. Et puis tout le monde était très sympa là-bas. Moi, je conserve un excellent souvenir de cet hôpital.
Je le disais, on a l'impression dans votre livre que la rééducation était un peu plus douloureuse que votre hospitalisation. J'ai mal lu le livre.
Non, mais la rééducation est pas facile. C'est-à-dire que là, moi, je faisais des séances de kiné qui étaient très dures à Berck. J'allais prendre des bains dans la piscine, mais il y avait une poulie qui me montait, qui me descendait parce que j'étais incapable de marcher. Hein. Attention, je faisais plein de trucs. Je faisais de l'ergothérapie et c'était très, très bien, mais c'était parfois douloureux, mais ils faisaient leur boulot, ils le faisaient bien.
Hein. Alors, dans votre livre, vous avez une ode. Et vous faites un sacré hommage à une personne qui vous a beaucoup aidé, c'est votre femme, Sylviane, qui c'est là, c'est son prénom. Vous pensez qu'elle elle dit « j'aurais pas fait tout ce que j'ai fait si c'était pas mon mari » parce qu'il a une force énorme. Vous nous avez dit en début d'émission que vous avez une morale, c'est ça qui vous a aidé ?
Ah ben d'avoir le moral, ça aide. Si vous n'avez pas le moral, vous réussissez rien. Hein. Vous allez dans le mur et vous êtes directement au cimetière. Non, il faut avoir le moral. Et moi, je l'ai toujours eu, j'ai toujours positivé, j'ai jamais baissé les bras. Et ma femme m'a toujours aidé, et c'était l'aidante. Hein. Moi, j'ai pas voulu d'une tierce personne à la maison. Et c'est toujours elle qui s'est occupée de moi, et ça, je la remercie profondément, parce que c'était pas évident. Vous savez, quand on est malade, je le dis souvent dans les interviews, on demande beaucoup de choses, on est très exigeant.
Ouais, je connais ça.
J'ai toujours été comme ça, et je me suis pas rendu compte, mais elle a fait quasiment une déprime à un moment, et tout. Et vraiment, si elle avait pas été là, je sais pas où j'en serais. Hein. Ça serait extrêmement difficile. Hein.
Petite question entre parenthèses, d'où ça vient le votre prénom que vos petits enfants vous disent Papilou?
Ils appellent Papilou parce que depuis qu'ils sont tout petits, je leur parle des loups. Ah. Je leur fais peur en disant qu'il y a une cabane au fond du jardin avec des loups, à la montagne il y a un bois, il y a des loups, donc ils m'appellent Papilou.
D'accord.
Voilà, tout à fait normalement.
D'accord.
Alors, ils ont plus peur du loup. Ils ont plus peur du loup depuis longtemps.
Hein. D'accord, mais vous appellent toujours Papilou.
Ouais.
Alors, on va revenir un peu à votre livre. J'ai envie de vous demander, quand vous étiez sur votre fauteuil roulant, c'était quoi la première chose que vous vouliez faire si vous remarchez? Qu'est-ce que vous avez fait en premier?
Moi, ce que je voulais, c'était remarcher. Hein, je voulais remarcher le plus vite possible, mais quand j'essayais de me mettre debout, je remarchais pas. Je m'accrochais au mur et puis je me rasseyais tout de suite. Non, la première chose, c'est que je voulais marcher parce que moi, je me regardais dans la glace. J'avais perdu 14 kilos quand même. Hein.
Ouais.
Et puis j'étais verdâtre, quoi. C'était pas terrible. Alors vous savez, quand on fait de la télé, on est toujours sensible à son look. Hein. On regarde toujours est-ce que je suis bien coiffé, est-ce que ceci, cela, est-ce que je suis bien maquillé. Bon, moi, j'ai décidé de plus me regarder dans la glace parce que c'était une catastrophe. Là, le moral en prenait un coup. Et puis, on a envie de marcher, on a envie de gambader dans la campagne. Moi, j'avais envie de reconduire ma voiture parce qu'on m'avait enlevé mon permis. Hein. Quand on a une neuropathie, on n'a plus de permis de conduire. Hein. J'avais envie de refaire du vélo, etc., etc.
Oui. Alors, vous dites dans votre livre, c'est très intéressant parce que c'est une histoire que moi aussi j'ai vécue. J'étais quelques mois à l'hôpital. Mm-hmm. Ce serait le fait de prendre juste un café dans une tasse, c'est des choses aussi qu'on ne peut pas faire, que
ça devient addictif. Moi, je ne pouvais pas faire ça, je ne pouvais pas m'alimenter, je ne pouvais pas couper mes aliments dans mon assiette, parce que mes mains étaient complètement pendues vers l'avant et je ne pouvais pas faire de découpage. Même maintenant, c'est encore difficile. Moi, mon plus beau cadeau, c'était de partir avec mon fauteuil roulant électrique hein, quand j'étais à Berck, et j'allais sur le bord de la plage et je mangeais mon sandwich. Ça, c'était le cadeau de ma journée, quoi.
D'accord.
C'est pas terrible, hein, on se contente de peu. Hein.
Ah oui, alors, oui, quand on est malade, on se contente de peu. Et pourtant, ce qui est intéressant aussi dans votre livre, c'est que vous racontez certaines histoires de votre vie. Et ce qui est très, très drôle, c'est que quand vous racontez des histoires, moi, j'étais devant mon téléviseur et j'ai vu tout ça en direct.
Et, oui.
Et il y a quelque chose qui m'a donné. Vous dites que votre premier 19-20, ça a été une catastrophe. Je n'ai pas le souvenir.
C'était pas de ma faute, hein. Il y avait Patrick Baudry, il y avait la petite fiancée de l'Atlantique, Florence Artaud. Je les avais pris parce qu'ils étaient représentatifs de ce qu'on voulait faire en télévision, hein, dans le 19-20. Mais ça a foiré techniquement. Alors tout le monde a retenu que c'était un mauvais jour, mais moi j'y étais pour rien et mes invités non plus. Le concept était bien, d'ailleurs après ça a bien marché, mais le premier jour, il faut pas faire d'émission à la Tour Eiffel, il y a des ondes partout, il y a des trucs et puis ça a foiré quoi. Bon, enfin c'est un mauvais
souvenir. Ça s'est
bien passé. Mais après ça s'est bien passé, il n'y a pas eu de problème.
Alors deuxième image qui m'a retenu, c'est évidemment quand vous demandez au président Mitterrand s'il se représente, il dit non de la tête, mais il dit oui. C'est un sacré moment, ça, non ?
Ça, c'est un sacré moment parce qu'il était. Nous, on était tous remontés comme des pendules parce que quand on accueille le président de la République, c'est rare sur un plateau. Hein. Le président, il se déplace pas. Généralement, le président, il reste à l'Élysée. Donc là, il était là et il était blême. Il était un peu énervé. Il était tendu. On lui a demandé s'il voulait boire un verre d'eau. Non, non, je bois pas. Enfin, bon, bref, il a dit bonjour à personne sauf à moi. Et quand je lui ai posé la question, il m'a fait un léger non et il a dit oui. Bon, voilà. Puis après, on m'avait dit, Henri, t'inquiète pas, il va parler pendant 1 minute 30 pour être pris partout. Ouais. Et il m'a dit oui, c'est tout ce qu'il a fait. Et après, je lui ai reposé 2-3 questions. Il me répondait oui, peut-être, machin. Ben, je dis, on est mal barré. Hein.
C'est aussi un souvenir que m'a raconté Paul Amar,
qui était à
vos côtés. Ouais.
C'était Paul qui avait... Paul avait négocié l'interview, c'était lui le responsable politique hein, de France, d'Antenne 2 à cette époque-là, et c'est lui qui devait reprendre derrière. Moi j'ai posé 3 questions, je devais en poser qu'une, mais il ne me répondait pas, et après Paul a repris sur un mode plus classique, et on a réussi à faire l'interview jusqu'au bout.
Je peux vous demander pourquoi vous avez écrit ce livre ?
Pardon, j'entends pas là.
Je peux vous demander pourquoi vous avez écrit ce livre ? Parce que c'est très intime quand même.
Non, c'est pas pour parler de moi, j'ai fait ça parce que je reçois énormément de courriers. Je reçois un courrier monstre, que ce soit dans ma mairie, et par mail, ou par courrier postal, et tous les gens, ils me prennent pour un toubib, quoi. Ils me demandent comment je suis soigné, qu'est-ce que j'ai fait, comment je m'en suis sorti, etc., etc. Donc je me suis dit, mais je vais pas continuer à faire ça, je vais écrire un bouquin dans lequel je leur donne quelques petites leçons de vie, de courage. Donc voilà, je leur dis, ouais, soyez bienveillants avec les autres, continuez à vivre, faites des activités, écoutez de la musique, profitez de la nature, écoutez les petits oiseaux, voilà, faites du sport, marchez.
C'est quand même très intime ce livre.
Pardon ?
C'est quand même très intime ce livre.
Vous
dévoilez beaucoup de choses qu'on ne sait pas de vous.
Oui, ah ben oui, mais je le fais pas pour ça, je le fais pour dire aux gens qu'il faut se dévoiler, il faut être bien avec les gens, il faut écouter, il faut admirer, il faut sourire, il faut rire aussi. Parce que les gens, ils se marrent plus maintenant, tout le monde baisse les bras et on rigole pas. Eh ben si, la France est belle, il fait parfois très beau, il y a des belles choses, il y a des gens qui créent des entreprises, bon, il y a aussi des entreprises qui se cassent la gueule, mais il se passe aussi plein de choses intéressantes. Il y a plein de gens qui font de l'écologie et qui le font bien, d'une manière active. Voilà, moi je plante des arbres, j'ai un petit jardin, je cultive. Voilà, il faut vivre. Et quand on vit, eh ben on s'apitoie pas sur son sort, quoi. Parce
quand,
que sinon...
quand on est malade, on voit la vie différemment. Vous avez découvert un nouveau monde, entre guillemets, évidemment.
Ah ben j'ai découvert un nouveau monde, effectivement, et c'est là que je me suis dit, moi j'étais un excité du bocal, je suis toujours en train de courir partout, et là j'ai dit, mais prends le temps de vivre, prends le temps d'écouter des gens, voilà, et ça ira beaucoup mieux, et c'est vrai, depuis, ben, je vis plus à 1000 à l'heure, je vis à 50 à l'heure, là, et je prends le temps de regarder, d'écouter les gens, de profiter de la vie, quoi.
Alors, moi j'ai un souvenir personnel avec vous, c'était une fois dans votre studio, dans votre bureau, vous préparez tout le sport, et effectivement, vous alliez très très vite, vous étiez dedans. On n'arrive pas à se rendre compte, quand on est journaliste, que de temps en temps, il faut écouter, s'arrêter, réfléchir.
Oui, mais n'avait pas trop le temps. Hein. Moi, quand je faisais mon émission, il fallait que ça soit prêt au temps T. Moi, je suis toujours en retard dans mon boulot et tout. Mais là, je pouvais pas, j'avais pas le droit. Et puis, il fallait que je respecte le nombre de secondes, etc.
Ouais, il y avait un chronomètre avec vous.
Hein. Ah oui, non, c'est compliqué. Donc là, j'étais obligé d'aller vite. Là, quand je suis chez moi à la campagne, devant ma cheminée, je prends le temps de vivre tranquillement. Je prends le temps de lire mon journal. Je prends le temps d'écouter la radio, de regarder la télé, de boire un apéritif avec mes amis. C'est un autre style de vie.
Il y a aussi un autre point important dans votre livre, c'est votre famille. On parlait de vos petits-enfants, de votre femme. On peut aussi citer vos enfants. Vous dites que la famille était un havre de paix. En tout cas, c'était le seul moment où vous vous sentiez un peu mieux. C'est important le rôle de la famille dans le rétablissement de quelqu'un qui est malade.
C'est pas important, c'est primordial. Moi, j'ai pas eu de petits-enfants avant 72 ans, vous vous rendez compte? Ah. Moi, mes enfants, ils m'ont pas fait de petits-enfants tout de suite. Et là, pendant ma maladie, j'ai eu 3 petits-enfants.
3 d'un coup.
Alors ça, c'est vachement bien. J'ai 2 petits garçons et une petite fille. Et ils m'avaient jamais vu marcher, ils savaient pas que leur papilou, ils savaient marcher, hein. Ah. Ils m'ont toujours vu allongé dans des trucs. Et le jour où, alors ils venaient m'apporter mes médicaments, ils étaient gentils comme tout, super sympa. Et le jour où ils m'ont vu marcher, ils m'ont applaudi. C'était le plus beau cadeau de ma vie, quoi.
Alors, dans votre vie, on le disait, vous étiez hyper actif. Vous avez maintenant pris le temps à écouter et à regarder les choses. Il y a, on va dire, un événement dans votre vie dont vous vous rappelez le plus ?
Oh, il y a plein d'événements qui sont au regard de mon boulot, qui sont très très importants. Quand j'étais à l'ORTF à Amiens, quand j'ai débuté, j'avais 19 ans, j'ai réalisé un scoop, et là, on m'a donné un contrat. Ça, c'est un événement pour moi qui était très important. J'avais retrouvé une petite fille qui avait été kidnappée, dans la région de Picardie, et donc j'ai fait les interviews de ses parents, on a filmé la petite fille et tout, et le lendemain, je passais en direct dans le journal d'Antenne 2, qui était animé par Léon Zitrone.
Ah.
Alors, les comptes, à 18 ans et demi, 19 ans, c'était l'exploit de ma vie, quoi. J'avais pas été très très bon, j'avais fait une ou deux fautes de prononciation, mais enfin, peu importe. Et puis après, le deuxième événement qui m'a le plus marqué, c'est le premier 20 heures que j'ai fait sur Antenne 2, le jour de mes 40 ans, avec comme parrain Alain Delon.
Ah.
Et ça, c'est quelque chose qui reste gravé dans ma mémoire.
Un mot sur une de vos passions, le vélo.
Ouais.
Vous adorez le vélo. Vous en refaites un peu là en ce moment ou...
Ah, je fais un petit peu de VTT, mais pas beaucoup, parce que j'ai pas beaucoup d'équilibre. Ah. J'ai peur de tomber, ça serait pas le moment de rompre un petit peu tout cet équilibre, tout ça. Donc je fais gaffe. En ce moment, j'en fais pas trop, mais j'ai l'intention d'en refaire et de remonter, regravir des cols, etc. Ouais. Ma philosophie, c'est de dire, je me mets au pied d'un col... Je vais jusqu'en haut, je ne mets pas pied à terre. Le jour où je mettrai pied à terre, j'abandonnerai le vélo.
Carrément.
Et je vais en haut et je lève les bras comme si j'avais gagné une étape du Tour de France.
Le Tour de France, c'est aussi quelque chose que vous avez vécu. Je me souviens que vous vous êtes battu pour faire un 13 heures sur une étape. C'est aussi un très bon souvenir.
C'est des souvenirs extraordinaires. J'ai fait 14 Tours de France avec des émissions avant et après les étapes. Je l'ai commenté pendant 2 ans avec Fignon et Jalabert. C'était le rêve de ma vie. Moi, quand j'étais gamin, à 5 ans, mon instituteur m'a demandé ce que je voulais faire plus tard. J'ai dit, je veux être journaliste. Hein. Sur Europe numéro 1, j'ai dit, parce que c'était la création d'Europe 1 cette année-là. Et il m'a dit, mais pourquoi ? J'ai dit, parce que je veux être sur une moto, je veux commenter le Tour de France.
Et vous l'avez fait.
Et j'ai réussi à le commenter, pas sur une moto.
Très intéressant également, c'est l'après-vie, l'après-accident. Vous racontez que vous avez repris une nouvelle vie, comme vous l'avez dit. Vous nous avez parlé de télévision. Qu'est-ce que vous regardez à la télévision ?
Je regarde tout. Je regarde d'abord les informations. Et je suis un zappeur impénitent. Hein, alors là, je zappe. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Je regarde d'abord mes anciens copains du service public, hein, parce que j'aime bien, je suis très attaché au service public. Ouais. Et puis je regarde pas les films et ces choses-là, moi je regarde des émissions, je regarde Des Racines et des Ailes, je regarde Échappée Belle, par exemple. Voilà, je regarde des choses comme ça, que j'aime bien et qui sont des belles émissions avec des gens qui ont du cœur. Et puis on découvre la France, qui est un pays merveilleux.
Alors, moi, j'ai eu une fois une interview avec un certain Pierre Fadenreich, que vous connaissez.
Comment vous l'appelez ?
Pierre Fadenreich.
Ah, Pierre Fadenreich, oui, tout à fait, je l'ai eu comme journaliste.
Hein. Voilà. Vous étiez directeur de la rédaction à l'époque ?
Oui, tout à fait, j'étais directeur de la rédaction et je lui avais confié le journal du Midi.
Oui, et vous vous souvenez de l'événement qu'il y a eu ce jour-là, enfin, cette période-là ? C'était le moment où il y avait le fameux avion qui a été détourné.
C'était à cette époque-là. Ouais. Mais moi, j'ai pas suivi tout cet épisode. C'était mon adjoint qui l'a suivi parce que moi, j'étais parti l'avant-veille. J'étais parti en vacances dans les Caraïbes. Ah. Alors, j'étais pas sur place, mais j'ai suivi ça par intermittence et il s'en est bien sorti.
Oui,
hein.
Tout à fait.
Il a fait un très très bon boulot.
Hein. En tout cas, il m'a souvent parlé de vous en vous disant que, en fait, vous l'avez appelé un jour en disant, toi, tu fais pas Noël, alors va travailler, parce que personne veut travailler à Noël, et que, ouais. Voilà, c'était assez...
Oui, oui. Ah ben moi, je faisais travailler les gens, j'étais assez, entre guillemets, assez négrier, hein. Je fais travailler, ouais. Mais moi, j'imposais à mes journalistes ce que je m'imposais à moi-même. Hein.
Ah, évidemment.
Moi, je travaillais tout le temps, hein. Mais lui, il était bon, il y avait lui et Lagache, hein. Ils étaient arrivés tous les deux, et c'était deux mecs très très bien, que j'ai essayé de propulser par l'avant.
Alors, vous avez dit que vous étiez très... très surpris agréablement par beaucoup de journalistes qui vous envoyaient des petits mots, des encouragements. La télé, c'est une vraie famille ?
Ben, c'est une vraie famille parce que tout le monde a l'air de dire en télé, tout le monde s'engueule, tout le monde veut prendre la place de l'autre et marcher sur les pieds et mettre des pots de banane. Moi, c'est pas mon cas. Moi, j'ai toujours été bienveillant à l'égard de mes journalistes qui m'aiment bien et qui me l'ont fait sentir. Et là, il y en a plein qui m'ont appelé. Et vous savez, quand vous êtes dans la détresse, comme moi, quand vous avez un coup de fil, ça fait du bien. Mmh. Ça fait du bien, c'est un ballon d'oxygène. Et bien, les trois quarts m'ont appelé pour me dire des choses très gentilles. Et ça, ça m'a aidé énormément. Il n'y avait pas que la famille, il y avait la famille des journalistes aussi.
Hein vous rappelez du jour où vous avez remarché ?
Ah oui, je m'en souviens très très bien. Ouais, c'était d'abord, c'était la nuit. La première fois, j'ai marché trois pas la nuit pour récupérer un médicament.
Ouais.
Et puis le lendemain, j'ai fait 3-4 pas et tout, voilà. Et ça a été le début, c'est un déclic. Hein. Et après, je m'appuyais sur chaque meuble avant de marcher, hein, parce que j'avais peur de tomber. Mmh. Mais je m'y suis remis naturellement, normalement, mais sans faire de folie. J'ai pas couru de marathon tout de suite. Hein.
Qu'est-ce que vous faisiez avant et que vous ne faites plus maintenant ?
Ah ben avant, j'aimais bien faire des longs raids à vélo, hein, de 100 bornes, 150 bornes. Je le fais plus, je peux plus hein, pour l'instant. Mais je ne désespère pas, je le referai peut-être. Mm-hmm. Qu'est-ce que j'aimais faire ? J'aimais faire du ski beaucoup. Là, j'ai fait 100 mètres sur mes trucs, je peux pas faire plus parce que j'ai peur de tomber. Je nageais moyennement, c'est pas mon truc. Là, je continue de nager. C'est pas vraiment mon sport de prédilection parce que je suis pas bon. Je peux pas mettre la tête sous l'eau, alors ça peut pas marcher.
Ah, c'est clair.
Et puis bon, là maintenant, je me venge entre guillemets en allant marcher sur le bord de la plage près de chez moi, là, entre deux stations balnéaires, il y a 3 kilomètres. Je marche les pieds dans le sable ou dans l'eau, et ça fait du bien, quoi.
Qu'est-ce que on peut vous souhaiter dans les jours, les mois à venir ? Il y a un souhait, un rêve, une envie.
Il faut déjà me souhaiter que ma maladie auto-immune et chronique ne revienne pas, parce que c'est une polyradiculonévrite chronique. Donc, quand on dit chronique, ça veut dire que c'est susceptible de revenir. Donc, moi,
là, vous en êtes où au niveau...
Je voudrais rayer le mot chronique, déjà.
Alors, au niveau médical, vous en êtes où aujourd'hui ? Vous avez toujours la maladie ?
Rien, il n'y a rien de spécial. Je vais faire ma plasmaphérèse une fois tous les 8 semaines.
D'accord.
À la Pitié-Salpêtrière, et sinon j'ai rien, j'ai pas de médicaments, j'ai rien du tout. C'est une maladie un peu insidieuse, hein, et coriace, et on a pas mal.
Ah.
Moi je préférerais avoir mal et savoir où c'était, et puis qu'on me donne des médicaments pour me soigner, mais là il n'y a pas. Hein.
Donc vous avez que votre aller-retour à la Pitié-Salpêtrière.
Comme traitement. Oui, pardon, j'ai que ça.
Alors, okay, comme je le disais, c'est
pardon,
pas bon.
Pardon, tous. Parce que j'ai attrapé la crème, en plus.
En plus. Mais vous nous faites en tout cas l'amitié d'être avec nous et ça nous fait très plaisir. Je vous repose la question, dans un ou deux mois, qu'est-ce que vous voudriez qu'on vous souhaite ou qu'on peut vous souhaiter ?
Ah ben moi je souhaite pouvoir voyager énormément, reprendre un peu. J'ai envie d'aller faire déjà le Tour de France, parce que je disais toujours à ma femme que la France est belle quand je faisais le Tour de France, et je lui disais toujours, bah écoute, je t'emmènerai un jour, on fera un Tour de France en voiture, et on ira d'hôtel en hôtel, de restaurant en resto, on va avoir la belle vie. Et ben ça je l'ai pas fait parce que j'ai pas pu. Bon, alors ça j'aimerais bien le faire. J'aimerais bien partir loin, j'aimerais bien aller voir Saint-Pétersbourg par exemple. Bah, c'est pas le moment, hein. Mais j'aimerais bien l'emmener en Chine. Moi, je suis allé en Chine, j'ai trouvé ce pays, j'avais peur avant d'aller en Chine. Moi, j'y suis allé au moment de l'affaire des gardes rouges et tout ça.
Bon, mais vous voyagez beaucoup, je vois.
J'ai envie de me balader, quoi.
Oui, vous avez beaucoup envie de voyager. Henri Sagnier, on rappelle votre livre, « Le jour où j'ai réappris à marcher » aux éditions du Rocher, « Le parcours d'un battant face à une maladie orpheline », livre qui vous fait du bien. Vous avez
c'est un livre qui me fait du bien aussi à moi, permis de dire des tas de choses. Et puis j'ai des retours en feedback, j'ai plein de retours de gens qui sont heureux. Et quand je vois des gens heureux, ça me fait plaisir et ça me fait du bien à moi aussi.
Merci beaucoup Henri Sagnier. Je vous souhaite plein de bonnes choses.
Que merci, vous viviez
jusqu'à à 120 ans. Merci beaucoup et à très bientôt.